Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. Merci pour ta présence ce matin. Merci de nous restaurer, de nous fortifier par ton esprit. Merci d'agir pour relever ton peuple, relever tes enfants et aussi parler à nos cœurs ce matin. Tu veux opérer des guérisons, tu veux opérer des délivrances. Tu veux nous rapprocher de toi. Tu veux qu'on abandonne des choses et tu veux qu'on reçoive d'autres choses. On te donne plein accès ce matin d'agir à travers ta parole, à travers ton esprit. On accepte tout ce que tu as à nous dire ce matin dans le nom de Jésus. Puis je te remercie de ce que tu vas faire au milieu de nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est toujours un plaisir de m'approcher puis de venir partager le message de l'Évangile. Puis c'est salutaire pour chacun de nous qu'on puisse s'entretenir de la parole de Dieu. Si un chrétien il a plus le goût d'entendre parler de la Bible, c'est pas bon signe. Si un chrétien commence à se refroidir dans son élan, dans son zèle, à vouloir connaître ce que Dieu a dit, c'est pas bon signe. Puis si un chrétien rendu qui a hâte d'entendre des choses qui lui font du bien, des choses qui le flattent, puis des choses qui l'encouragent à rester comme qu'il est, c'est pas bon signe. Quand on s'approche de la parole, c'est afin de ressembler de plus en plus à Jésus. Y a-t-il un amen à cela? Amen. C'est vrai. On est ici pour se perfectionner. On est ici pour être transformé par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, pour qu'on devienne de plus en plus comme Jésus.
Amen.
Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont à cœur d'être changés. Puis tout le long, comme que je vais l'expliquer pendant mon message, parce que on continue le thème sur... le dépôt que le Seigneur a mis dans nos vies, à partir du moment qu'on a donné notre vie au Seigneur, il a commencé des choses en nous, puis il veut que ça se multiplie. Puis de semaine en semaine, on apprend des choses que l'Esprit fait dans nos vies pour nous modeler, nous transformer, de nous apprendre à être attentifs à sa voix. Cette semaine, on est rendu au niveau les désirs de l'Esprit et la sanctification. Apprendre à marcher par l'Esprit. Parce qu'entendre la voix de l'Esprit, c'est une chose. Puis marcher selon l'Esprit, ça en est une autre. Tu peux avoir entendu le Seigneur te parler tout le long de ta vie chrétienne, puis pas commencer à obéir. Pas avoir commencé à obéir. Il te donne des directions, il te donne des pensées, il te donne des... Moi, j'appelle ça donner des « in ». Il te donne une révélation, il te donne des flashs pour faire comprendre sa parole. Puis là... On conteste, on résiste. Ça nous tente pas d'obéir, ça nous tente pas de marcher. Fait qu'on reste toujours au même stade. Pareil comme le peuple juif dans le désert, ça y tenta pas de rentrer dans terre promise, ça y tenta de retourner à son ancienne vie. Ah, il y avait des fruits, des légumes, il y avait de la viande, il y avait toutes sortes de bonnes choses. Il était en train de piler de la brique, mais il pensait plus à l'esclavage, pas à leurs problèmes, puis qu'il était pogné à obéir au pharaon. Il ne regardait pas la délivrance que Dieu leur avait donnée, il regardait plutôt à tous les avantages que ça leur donnait d'être dans leurs anciennes vies. Puis je pense que dans notre vie chrétienne aussi, des fois, on est encore attaché, notre cœur est encore attaché aux choses de notre ancienne vie. Puis le Seigneur va nous parler ce matin pour qu'on s'accroche à lui. Puis là, à partir, je dis pas à partir d'aujourd'hui, vous allez entendre sa voix. Vous l'entendez déjà. Il vous parle depuis que vous êtes converti. Il vous parle en lisant votre Bible. Il vous le parle par les prédicateurs. Il vous parle directement par son esprit. Il vous parle. Mais que là, on apprenne à discerner sa voix, puis à commencer à marcher. Commencer à obéir. Puis c'est ça que la Bible appelle la sanctification, de marcher par l'Esprit. Le premier passage, on va voir plusieurs passages. Le premier passage qu'on va voir, c'est dans 2 Timothée 1, 14. Non, ben, vous n'êtes pas obligé d'y aller, je l'ai déjà lu les autres semaines. Garde le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit a déposé quelque chose, puis il veut que ça soit gardé tel que c'est. Il y a des choses, il faut qu'ils se multiplient, puis il y a des choses, il faut qu'elles soient gardées. Puis dans ce cas-là, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, le Saint-Esprit, à partir du moment qu'on s'est converti, il nous a purifiés. Premièrement, avec le sang de Jésus, on a été lavés de tous nos péchés. Aux yeux de Dieu, on est devenus des justes, déclarés justes. Quand Dieu le Père nous regarde, il voit Jésus.
Amen.
Tout le monde est d'accord?
Amen.
La justice de Jésus est sur vous. Vous avez revêtu Christ, vous êtes sauvés. La justice de Jésus vous recouvre maintenant. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut garder là-dedans? Le Saint-Esprit veut nous amener à ce que, en pratique, dans notre vie, dans notre marche, qu'on devienne aussi à marcher dans cette justice-là. Parce que tu peux avoir le titre que tu es un juste, puis marcher tout croche dans ta vie. Puis quand on parle de se sanctifier, c'est commencer à vivre comme le Seigneur le veut dans sa parole. On commence à renoncer à nous-mêmes, faire mourir des choses, et appliquer à notre vie de nouvelles choses qui font qu'on va ressembler de plus en plus à Jésus. Puis c'est ça que le Saint-Esprit a commencé en nous renouvelant dans notre pensée, en nous enseignant d'autres manières de penser. Puis là, il veut nous apprendre à marcher, à obéir à ce que lui veut nous conduire pour qu'on devienne saint en pratique. Premier Pierre 1, 2. Ça, c'est la base pour partir ce thème-là. Pierre est en train de parler aux disciples, puis il dit, vous êtes les élus, selon la présence de Dieu le Père. Alléluia, merci Seigneur. On est devenus des élus. On ne l'était pas parce qu'on était venu au monde d'une famille chrétienne. On n'est pas venu un élu parce qu'on était un bon gars. On est devenu un élu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. C'est à cause de Jésus que je suis devenu un élu. Si je suis une personne que mon nom est inscrit dans le livre de vie, c'est à cause de Jésus. Puis Dieu avait déjà préparé dans sa préscience, ça veut dire, Dieu pensait déjà d'avance à sauver plein de monde à travers Jésus. Puis il nous a appelés chacun de nous à passer à travers Jésus pour être sauvés. Mais ça avait un but. 1 Pierre 1, 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang Jésus-Christ. Voyez-vous, ce verset-là, on ne le lit pas souvent. On ne l'entend pas souvent, ce verset-là, parce que ça l'implique qu'il faut que quelque chose se passe pour que tu sois vraiment un élu. On est devenu élu parce qu'on a décidé de se repentir et de se convertir. Ça veut dire quoi? Avant, quand j'étais dans mon ancienne vie, je vivais comme moi, ça me semblait bon. Ce que j'aime, ce qui me tente, ça me tente de sortir avec une fille à soir, je sors avec. Si je le tente le lendemain d'en sortir avec un autre, je sors avec. Il n'y a rien qui est grave. Je vis dans toutes sortes de choses que Dieu veut pas. Je blasphème, je mens, je vole, je fraude, peu importe les péchés qu'on peut se livrer. Dans notre ancienne vie, c'est ce qu'on faisait. Mais à un moment donné, on a réalisé que Jésus mourait, il était mort sur la croix pour pardonner nos péchés. On a décidé de se convertir, de se tourner vers lui et de dire, Seigneur, je veux commencer à obéir à ta parole. C'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit il a commencé un travail de sanctification. Ça veut dire quoi? Un travail pour nous rendre saints. C'est pas quelque chose que tu avais en te convertissant, c'est quelque chose qui commence à faire à partir du moment que tu donnes ta vie à Jésus. Il commence à te changer. Le Saint-Esprit va te guider, il va te transformer de plus en plus pour que tu t'en deviennes finalement comme Jésus. Puis il dit, on est élu par la sanctification de l'Esprit afin de devenir obéissant. Autrement dit, on est rentré dans le chemin étroit et resserré parce qu'on a le désir d'être obéissant. Quelqu'un qui vient à Jésus, qui n'a pas l'intention d'obéir à Jésus, il n'a pas l'intention de devenir obéissant. Il n'est pas encore entré dans la porte étroite. Le premier critère pour entrer, il faut que tu sois repentant. Ça veut dire que tu regrettes la manière que tu vis, puis tu veux te convertir, c'est que tu veux commencer à obéir. Est-ce que chacun de nous, on veut devenir obéissant à Jésus? Puis si vous le voulez, le Saint-Esprit va commencer, il a commencé, parce que je suis sûr vous le vouliez quand vous êtes converti, il a commencé à agir pour vous sanctifier. C'est à cause de ça que le sang de Jésus va être réellement efficace sur vos vies. Si on regarde un constat, là, si on en fait une analyse, là, c'est quoi la vie des humains sur la terre, notre nature humaine. Là. Selon Éphésiens 2, les versets de 1 à 3, la Bible nous dit que notre nature humaine, là, elle n'était que rébellion, perdition. On était complètement séparés de la vie de Dieu. Éphésiens 2 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça, c'est avant d'être chrétien. On était morts en marchant comme ça parce qu'on marchait selon le train de ce monde, Selon le prince, le train de ce monde, ça c'est le monde, la manière que le monde fonctionne. On est à mort parce qu'on marchait comme le monde fonctionne. On marchait aussi selon le prince de la puissance de l'air. Ça c'est qui? C'est le diable. Le diable mène le monde aujourd'hui, puis nous autres, on était dans la gang de ceux qui se faisaient mener par ce prince-là. Puis, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, nous tous, nous étions de leur nombre. On faisait partie des gens qui étaient morts, puis qui marchent selon un mode de vie qui n'est pas conforme à l'esprit de Dieu. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. On était par nature des enfants de colère comme les autres. Aujourd'hui, si on est sauvé, on n'a aucun mérite de dire « Ah, ben moi, j'étais une bonne personne. » Je regrette. La Bible elle me dit qu'on était tous des enfants de colère comme les autres. Chacun de nous ici, on était du même... Mettons, on regarde les gens aller, puis on est porté des fois même à les mépriser. « Ah, lui, c'est ainsi, c'est un ça, il fait ci, il fait ça, puis c'est toutes des affaires qui déplaisent à Dieu. » Là, on commence à avoir un petit orgueil, parce que nous autres, on n'est pas comme ça. Mais il faut se rappeler qu'on était comme ça. On était pareil comme eux autres. Puis on vivait selon le même esprit qu'eux autres. On vivait selon le monde, comme eux autres vivent selon le monde. On était entraînés par les fils de rébellion. À partir d'Adam et Ève, la rébellion a commencé. L'ensemble de l'humanité sur la terre sont des fils de la rébellion. On est tous des fils et des filles d'Adam et Ève. La rébellion a commencé là. On est tous des rebelles par nature. Ça dit, c'est ça que ça nous dit au verset 3. Et nous étions par nature, c'était naturel, en venant au monde, on était des enfants de la colère. C'est ce que la Bible a dit. L'ensemble de l'humanité sont des enfants de la colère. Oh, mais ma tante puis mon oncle, c'est des bons yobs. Non, il n'y a pas de bons yobs, il n'y a pas de bonnes personnes. On est tous des enfants de colère, on est tous sur le chemin de la perdition. Puis on était nous aussi dans le même nombre qu'eux autres, on faisait partie de leur gang. En s'en allant dans la même direction selon ce que le monde s'en va, on était tous nés par le même esprit qui mène ce monde. Là, si vous vous demandez, « Ouais, mais comment ça se fait qu'on est si attiré par ce qui nous entoure? » C'est une bonne question. On voit dans Romains 8, 5 à 8, que quand tu es né dans ta nature humaine, c'est à naturel que tu fasses partie de ce monde naturel-là. Tu es entraîné naturellement, c'est en venant au monde, c'est automatique que si tu viens à être au monde, tu vas avoir cette nature rebelle-là qui va t'entraîner à vivre comme le reste du monde. C'est naturel. Tu viens au monde, tu es comme ça. Tu n'as pas le choix, il n'y a pas un être humain sur la terre, excepté Jésus, qui n'a pas hérité cette nature de Adam et Ève. Vous savez tous pourquoi que Jésus, lui, n'a pas hérité cette nature-là? Il y a une seule raison pourquoi que Jésus n'a pas hérité de cette nature déchue-là en venant au monde. Parce que son père, c'était pas Adam. Parce que son père, c'était Dieu. C'est Dieu qui a mis Jésus dans le corps de Marie. Elle n'a pas hérité du tout de la nature. Elle, oui, mais je parle de Jésus, n'a pas hérité du tout de la nature humaine, déchue, perdue, puis qu'on était dans des offenses, puis dans des péchés, puis marchant selon ça. Il n'a pas hérité de cette nature-là.
Il
n'a
pas hérité de la nature
de Ève? Non. Lui, il avait une autre nature, une nature qui n'était pas entraînée vers le péché. Je ne dis pas qu'il n'a pas été tenté. Oui, il a été tenté. Oui. Mais il n'a pas hérité de ce qu'il n'a de Marie, il a hérité de ce qu'il n'a du Saint-Esprit. Jésus, c'est la seule exception que c'est un être humain, il fallait qu'il naisse dans une autre loi qui n'est pas la loi du péché. Adam et Ève, l'ensemble de l'humanité a descendu d'Adam et Ève dans le péché.
On a hérité de tout Adam.
Oui. Adam et Ève.
C'était une coutume
de ce temps-là,
c'était
la coutume du père. Mais je parle pas, l'héritage, là, je parle de la nature. Moi, je ressemble à mon père et à ma mère. J'ai les mêmes penchants. Si mon père, des fois, est alcoolique ou ma mère est alcoolique, je peux hériter des mauvaises choses de mon père et de ma mère. Mais Jésus n'a pas hérité la même chose que ce que nous autres, on a hérité. Parce que lui, il ne venait pas de Joseph. Il venait de Dieu le Père. Si Jésus il aurait venu au monde dans la même nature que nous autres, il aurait eu besoin d'un sauveur lui aussi, parce que sa nature normale arrêtait d'être entraînée comme tout le monde. Mais lui, il n'a pas été entraîné comme tout le monde à partir du début de sa naissance. Il y avait une grâce qui était sur lui, puis il a résisté au péché toute sa vie. Il n'a jamais été sous l'emprise du péché. Nous autres, aussitôt que le péché s'est présenté à nous autres, la tentation est venue, on embarquait dedans, on était des enfants de la colère, comme tout le monde. Romains 8, 5 à 8 nous dit, en effet, là je vais vous lire la traduction dans la Bible du Semeur, parce que dans la Bible du Semeur, elle a un petit sens de plus que la Bible Louis II qu'on est habitué d'entendre. Puis je vous demanderai d'être attentif. Il y a deux passages dans toute l'étude qu'on va voir qui parlent qui vient de la Bible du Semeur, puis le petit sens qui est là, il est important. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes, ils tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit, ils tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi on tend l'homme livré à lui-même le mène à la mort. Tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces passages-là? D'après l'autre passage qu'on a vu avant, on était tous des hommes naturellement, on avait une nature qui faisait de nous des enfants de colère comme les autres. Puis dans ce passage-là, ça nous dit, si tu es un homme qui est livré à lui-même, il va être attiré à aller toujours à ce qui est conforme aux choses des hommes animés par eux-mêmes. Puis ceux qui ont reçu le Saint-Esprit te pousse puis te fait tendre à aller vers les choses qui font partie du monde de Dieu. Puis si une personne est livrée à elle-même, dans toutes ses tendances, tout le résultat de cette vie-là va être que haine de Dieu, insoumission à Dieu, puis une impossibilité de plaire à Dieu. Tu viens au monde dans une nature qui ne pourra jamais plaire à Dieu. Tu viens au monde dans une nature qui va toujours être haïe de Dieu. C'est naturel, tu viens au monde dans cet état-là. Puis le verset 8 nous le dit bien, les hommes qui sont livrés à eux-mêmes, puis qui marchent selon leur nature, ne sauraient ou ne peuvent plaire à Dieu. Jamais Dieu va apprécier une personne qui marche selon sa chair, même s'il a essayé de faire attention à bien faire. Une chair, ta vie charnelle, même si elle a été recyclée un peu, puis tu fais attention de ne pas sacrer, tu fais attention de ne pas dire de mauvais mots, tu fais attention de te retenir, de ne pas réagir, puis sauter sur tout le monde, ou selon les élans naturels. Même si tu as une chair recyclée, une chair que tu as modifiée par tes forces, ça ne pourra jamais plaire à Dieu. Toutes les choses qui intéressent à Dieu, c'est qu'il veut voir des vases, notre corps, remplis de l'Esprit de Dieu et des voies qui tendent vers les choses de Dieu. Ça, Dieu trouve ça agréable. Mais les choses naturellement humaines, charnelles, ne pourront jamais plaire à Dieu, même si c'est une personne qui s'est modifiée de toutes ses forces par des religions, des traditions, des modes de vie que tu t'imposes pour essayer de te modifier, ça ne plaira jamais à Dieu. La Bible donne de sérieuses mises en garde sur le monde et son jugement. Le monde, il est déjà jugé. Le prince de ce monde a été jugé. Déjà, il y a une colère qui plane, c'est la colère de Dieu qui demeure sur les gens tant qu'ils ne se sont pas encore repentis, tant qu'ils ne se sont pas encore tournés vers Jésus pour être pardonnés et de marcher en communion avec l'Esprit de Dieu, les gens marchent encore naturellement comme des enfants de colère, comme nous le dit dans Éphésiens 2. Puis là, la Bible nous encourage dans 1 Jean 2, 15, la Bible parle aux chrétiens en disant « N'aimez point le monde ». Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, ben l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce qui est naturel en venant au monde, tu vas avoir des convoitises de la chair, des convoitises des yeux, puis l'orgueil de la vie. C'est naturel, tu vas être comme ça. Ça, ça ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne vient pas du Père, ça vient du monde. Puis le monde passe, puis ça convoitise aussi, parce que le jugement est déjà donné. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il est important que les gens réalisent qu'ils ont besoin d'un changement. Qui ont besoin de faire un détour dans leur vie à un moment donné. Parce que si tu continues à vivre toute ta vie d'une manière charnelle qui est conforme au monde et conforme à l'esprit de ce siècle, tu marches dans ses voies, puis ça, c'est le jugement qui attend à la fin de ta vie. Puis si, à quelque part dans ta vie, tu as décidé de reconnaître que Jésus t'a mort à la croix pour pardonner tes péchés, puis que là, tu dis, « Oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux être ton disciple », mais le Saint-Esprit rentre en toi, puis il commence déjà le chemin de la sanctification. Il commence déjà à parler, à te régénérer, à t'instruire, à te montrer les choses que tu dois appliquer à ta vie ou les choses que tu dois retrancher de ta vie. Il veut te conduire à ce que tu deviennes saint. Mais il y a de l'espoir pour nous. Oui, il y a de l'espoir pour les chrétiens. Il y a de l'espoir parce que, humainement parlant, si Jésus ne serait pas venu payer ce qu'il fallait, on était tous encore dans la perdition. Colossiens 2,13 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Voyez-vous, on était déjà dans la voie de la perdition, des enfants de colère, on marchait selon les tendances de notre chair, on était attiré vers les plaisirs de notre chair, les convoitises de notre chair, les convoitises de nos yeux, puis l'orgueil que la vie nous donnait. « Oh, moi, je suis bon, moi, je suis capable, moi, j'étais un bon walker, je suis bon assis, je suis bon à ça, oui, c'était un bon ventard, oui. » Mais ça, l'orgueil de la vie, ça vient pas du Père, ça vient du monde. Puis, même si on était tous des morts, Dieu nous a donné une chance d'être rendu à la vie, d'être ressuscité, puis d'avoir un contact avec Dieu le Père. Puis que là, à partir de ce moment-là, il pourrait y avoir une vie qui lui soit agréable. Maintenant, là, une fois qu'on a reçu ce cadeau-là, c'est beau qu'on a reçu le cadeau, ça c'est comme je vous disais, c'est un dépôt. C'est un acompte qui te donne, je te donne le Saint-Esprit, puis je dépose en toi plein de choses. Fais attention par le Saint-Esprit à ce dépôt-là. Le Saint-Esprit a décidé de te rendre juste. Que la justice de Jésus te recouvre, le sang de Jésus est sur toi, c'est beau. Maintenant, marche dans la sanctification, afin que le sang de Jésus puisse vraiment faire l'action qu'il est supposé de faire. Parce que c'est ce qu'on a vu dans le premier verset. Puis là, dans Éphésiens 4, 17, ça nous dit, « Voici ce que je dis. » C'est Paul qui parle. « Et ce que je déclare dans le Seigneur. » Ça, ça veut dire, il ne fait pas rien en parler comme si c'était un sujet de conversation. Souvent, il y a des versets de la Bible qui sont comme des sujets de conversation. Puis on n'a pas de l'importance. Ça n'a pas de gros impact pour dire, on change de quoi dans notre vie avec ces paroles-là. Lui, il dit, Paul, il dit, « Voici ce que je dis. » Et ce que je déclare. Quand tu fais des déclarations en disant « La Bible dit cela », il n'y a pas à sortir à gauche ou à droite, c'est ça. C'est des déclarations, mais la Bible est pleine de déclarations, surtout le Nouveau Testament, est pleine de déclarations de ce qui devrait être un mode de vie chrétien. Tu es devenu chrétien, tu as un nouveau mode de vie. un chrétien devrait être comme ça ou il ne devrait pas être comme ça. Il y a des déclarations que c'est des paroles qui sont vraiment comme des ordres. Des ordres que, dans la forme, dans le grec, là, c'est écrit impératif. C'est au mode impératif. C'est une chose que tu es obligé de faire en tant que chrétien. C'est pas si ça te tente, tu deviens chrétien, puis si ça te tente de marcher dans les voies de Jésus, tu le fais, puis si ça te tente pas, tu le fais pas. Mais ça marche pas de même. Tu dois obligatoirement marcher en obéissance. On était sanctifiés afin de marcher dans l'obéissance. C'est le premier passage que je vous ai montré tantôt. Là, Paul y déclare, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça, c'est une déclaration. Des chrétiens, ça ne doit plus marcher comme des païens. Là, vous me dites, ouais, mais c'est qui les païens? Ça représente qui? Mais il faut le dire en partant, c'est que les païens, c'était nous autres avant. Avant qu'on se convertisse à Jésus, on était tous des païens. Tout ce qui n'est pas juif était païen. Et aux yeux des juifs, les païens, c'était quoi? Des gens impurs. Des gens qui marchaient, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Il y a des païens qui pouvaient se convertir à la religion juive, puis qui y joignaient pour devenir, pour faire partie du peuple juif. Ils appelaient ça des prosélytes. Oui, ça existe. Mais les païens, en général, ça veut dire l'ensemble des nations impures. Mais là, dans la Bible, le mot païen, dans le Nouveau Testament, prend une petite légère différence. Le mot païen, dans le Nouveau Testament, ou dans d'autres traductions, ça va être écrit gentil. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est des païens, ou des gentils, ou des incirconcis. Pas incirconcis dans la chair, mais incirconcis de cœur. Là, dans la déclaration de Paul, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Ça, c'est qui ça, les païens? C'est les gens du dehors. On ne doit plus marcher comme le reste du monde. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. L'ensemble du monde qui ne veut pas, dans leurs pensées, se soumettre à la pensée de Dieu, ils marchent en rébellion contre Dieu. Donc, ils marchent dans des pensées vaines, inutiles. Leur direction, leur but, leurs objectifs, leur raison de vivre est vaine. S'ils n'ont pas tourné leur cœur ou leur sens ou leur vie à vouloir vivre pour Jésus, puis marcher en communion avec Jésus, puis marcher selon la parole de Jésus, c'est encore des pensées vaines qui les mènent. Puis il dit, vous ne devez plus marcher comme eux autres. Ils marchent dans des pensées vaines, des pensées inutiles aux yeux de Dieu. Que la fin de cette vie-là, c'est la perdition. Puis il nous dit pourquoi ils sont comme ça. Dans le verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Dans leur intelligence, tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu marches comme... C'est quoi qu'on dirait que le ciel s'est obscurci? Ça veut dire que les nuages sont là, ça te cache la clarté du soleil, comment ça fait noir. Mais quand tu as l'intelligence obscurcie, c'est quoi? C'est quand ta compréhension est rendue qu'il fait noir et tu vois pas où tu t'en vas. Tu comprends pas. Tu peux te faire des belles idées, des belles phrases. Tu peux même chanter des beaux chants. Je parle des gens du monde. Ils vont chanter des chants. Ça a de l'air intelligent aux yeux des autres personnes du monde. Mais aux yeux de Dieu, c'est de la folie. C'est de la vanité. Ça sert à rien. Là, il dit, l'ensemble du monde marche dans des vanités, dans des choses inutiles, vaines. Ils ont l'intelligence obscurcie, puis ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi une vie qui plaît à Dieu. Leur vie ne peut plaire à Dieu. La même chose qu'on était, nous autres, avant d'être chrétiens, qu'on marchait dans notre chair. Puis ceux qu'on a vu dans le passage, ceux qui marchent selon leur chair, ne peuvent plaire à Dieu. Même si tu as une religion qui fait de toi un homme qui se prive de tout, ça n'a aucune valeur devant Dieu parce que c'est encore vivre dans ta chair. Puis ça ne plaît pas à Dieu. Puis ils sont étrangers de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Si les gens sont aveugles, s'ils sont obscurcis, s'ils sont ignorants, ça vient de leur endurcissement. Le Saint-Esprit a cogné dans leur cœur, puis a dit, « Jésus peut te sauver. » Oh, j'ai pas besoin de Jésus. Moi, je mène une bonne vie. Moi, j'ai une bonne religion. Moi, je suis un gars qui est bien réputé dans mon village. Là, le gars, il marche encore dans sa vanité, qui ne plaît pas à Dieu. À cause de ça, il continue à rester aveugle. Il continue à rester ignorant. Puis il continue à rester en intelligence obscurcie. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté puis joindre à la cupidité. Si tu regardes le monde, il approuve de plus en plus d'impureté aujourd'hui. Ça, ça fait longtemps que c'est commencé. Avant, l'Église catholique, même si c'est une religion qu'on ne reconnaît pas que le salut est dans l'Église catholique, le salut est dans la foi en Jésus. Mais il imposait des lois morales, puis ça gardait quand même le monde dans des certains guides qui étaient... Les gens faisaient attention. Mais aujourd'hui, là, tout débarque, il n'y a plus de morale qui est là, puis là, le monde, c'est « Youpi, on embarque dans tout ce qui nous est présenté. » Bientôt, ils sont à la veille de marier leurs enfants, ils sont à la veille de marier leurs animaux. Mais oui, il aime son chien, il va se marier avec. Qu'est-ce qui empêche que je me marie avec mon chien? Ils sont à la veille d'accorder ça. Tout est rendu plus grave. Pourquoi qu'ils pensent que c'est plus grave? Parce qu'ils ignorent c'est quoi la vie de Dieu. La vie de Dieu, où est-ce qu'on l'apprend? Mais c'est dans la parole de Dieu. Si les gens ne veulent pas savoir ce qu'il y a d'écrit dans la parole de Dieu, ben ils demeurent ignorants, ils demeurent aveugles, puis ils courent après des vanités, puis tout est au pun, il n'y a rien qui est grave. On peut se permettre n'importe quoi. C'est ça le monde aujourd'hui. Et la Bible nous dit, marchez pas comme les païens. Ça veut dire que si vous vous posez, oh mon oncle qui fait ça, oh mon cousin il est de même, là, on pense que ça devrait être comme ça qu'on devrait être. Non, 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 non. C'est pas à cause que lui se livre dans ses débauches que c'est quelque chose que je dois suivre. C'est pas à cause qu'il change de blonde à tous les soirs que moi, qui est chrétien, je dois faire la même chose. C'est quoi qui est mon point de référence? Où est-ce que je dois regarder quelle ligne que je dois suivre? Il faut que je revienne à la pensée de Dieu. Parce que lui, il est ignorant de la vie de Dieu. Faut pas que je m'en fasse comme une référence. Faut que je regarde les autres chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu, puis qui ont une vie de sainteté, de sanctification, puis qui sont proches de leur Seigneur, puis ils font attention à leur conduite. C'est eux autres faut que je regarde. C'est d'eux autres que je dois tirer un encouragement ou qu'on marche ensemble dans ce chemin-là. Voici maintenant la nouvelle règle de notre conduite en Jésus. Parce que c'est important, là, on s'est converti, il y a des règles. C'est quoi les règles? Éphésiens 4.20, qu'est-ce que nous dit Éphésiens 4.20? À partir du verset 20. Il y a un nouveau mode de vie pour les chrétiens. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu... Parce qu'il y en a des fois, ils sont assis dans l'Église, puis ils n'ont pas encore compris c'est quoi Christ, c'est quoi le chemin de Jésus. Il dit, si du moins tu l'as entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est drôle, on n'entend pas souvent ça, que quand tu viens à Jésus, c'est parce que tu as le but de te dépouiller. On n'entend jamais ça. Mais quand tu viens à Jésus, tu présentes Jésus à quelqu'un, il faut qu'il ait déjà été instruit. Ça dit qu'en Jésus, il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu l'apprennes ça au début de ta conversion. Que tu es une personne qui a décidé, tu deviens chrétien, là. Tu es une personne qui a décidé à se dépouiller. J'apprends-tu quelque chose de nouveau? Je ne serais pas supposé. Vous êtes tous déjà supposés en train de vous dépouiller. Je vais répéter ce phrase-là. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Puis là, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voyez-vous, dans ce passage-là, nous parle pas... directement de la justice que tu as eue, que Jésus, la justice de Jésus est sur toi. Oui, c'est vrai que la justice de Jésus est sur toi quand tu te convertis. t'as revêtu Christ, Dieu, il regarde, quand il te regarde, il voit Jésus, il voit la justice de Jésus. Mais dans ce verset-là, ça dit, au verset 24, il faut que tu revêtes l'homme nouveau qui est créé selon Dieu, là, ce changement-là, ça s'appelle une création, une nouvelle création que Dieu fait dans toi. T'avais une nature avant qui marchait selon le monde, qui était naturel d'être rebelle, t'es un fils de la rébellion, c'était naturel d'être conduit par tes convoitises charnelles, tes convoitises tes yeux, ton orgueil, c'était naturel. Puis là, il dit, tu viens à Jésus, t'as décidé de te dépouiller, puis t'as décidé de te revêtir de quelque chose d'autre, puis ça, c'est l'homme nouveau. Il dit, celui qui est en Jésus est une nouvelle créature. T'es une nouvelle création. À partir de ce moment-là, Dieu a créé quelque chose de nouveau. T'as été créé enfant de Dieu. Tu l'étais pas par nature. Par nature, tu étais un enfant de colère comme les autres. Maintenant, tu es créé enfant de Dieu. Tu es rendu un homme nouveau. Mais, humainement parlant, tu es dans une position, il faut que tu te dépouilles puis tu te revêtes. Puis ça, dans ce passage-là, il dit, tu es créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là, on ne parle pas de la sainteté de Jésus qu'on a reçue en titre. On parle de la sainteté. Tu vas revêtir un homme nouveau, puis tu vas devenir juste en pratiquant ta sanctification. C'est ça que ça veut dire dans une phrase. Si je traduis le verset 24 en phrase québécoise, là, c'est que tu vas revêtir l'homme nouveau. Puis tu vas être déclaré juste en marchant dans la sainteté. Si tu fais attention à ta vie, puis tu commences à dépouiller et à revêtir ce qui vient de Dieu, tu vas devenir juste dans ta pratique et non pas juste en titre. Puis ça, c'est qui va faire cette transformation-là? C'est ce que va produire la vérité. Dans la vérité, il y a la parole qui est la vérité, il y a le Saint-Esprit qui est la vérité. Jésus est la vérité. Fait qu'il y a plein de choses qui appartiennent à la vérité. Il y a plein de choses déjà données aux chrétiens à partir qui se sont convertis pour pouvoir faire multiplier. Et c'est ça qui fait partie du dépôt. Là, j'entends les pensées dans votre cœur qui me demandent, mais comment ça marche? Comment je peux être dépouillé et renouveler l'homme nouveau? Y en a-tu qui se posent la question? Y a-tu une recette, entre parenthèses, miracle, pour que je puisse être dépouillé de mon ancienne vie et commencer à vivre dans une nouvelle vie. Dans la vie que moi, je me revêts. Ça ne parle pas que c'est Dieu qui va me revêtir. Ça dit, c'est moi qui dois me revêtir. C'est moi qui dois me dépouiller. Mais comment je peux arriver à le vivre? Oui, il y a des moyens dans la Bible d'y arriver. C'est les mêmes moyens qui étaient là, il y a 2000 ans. Si on écoute les psychologues aujourd'hui, là, ils ont tous sorti la science de Dieu, la science de l'Évangile, puis là, ils ont commencé à appliquer des raisonnements, puis des méthodes, en ventilant. Dis aux autres, répète-les, je suis un alcoolique, puis là, tu répètes ça, puis là, tu répètes ton témoignage, puis tu penses qu'à force de le répéter à tous les semaines, que tu vas finir par être délivré. Ça n'a pas de puissance, ça, la ventilation de vos péchés. Si vous voulez vraiment être libre du péché, il y a une recette qui est dans la Bible. C'est cette recette-là que je vais vous expliquer. C'est la même recette qui était à l'œuvre, là, 2000 ans. 1. Laissez le Saint-Esprit vous parler et vous diriger. Comme qu'on l'a vu la semaine passée, l'autre semaine. Il dit, le Saint-Esprit veut renouveler votre intelligence. C'est vrai qu'on pensait comme tout le monde, qu'on tournait à vouloir faire ce que le monde font. Oui. C'est vrai que par nature, on marchait comme tout le monde. Mais le Saint-Esprit a commencé une œuvre à nous renouveler dans notre intelligence. Il a commencé à changer notre manière de penser. Puis là, il veut t'enseigner, il veut te montrer comment que ça marche. Puis si tu te laisses diriger par lui, tu vas être conscient de ton état devant Dieu. Puis il faut que tu l'acceptes ce que le Saint-Esprit va te dire. On va vous donner un exemple. Vous êtes en train d'écouter une prêche, j'étais assis dans l'église, j'écoutais une prêche, puis là, le Saint-Esprit dit, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui-là, en avant? C'est vrai que c'est un péché dans ma vie, cette chose-là. Là, le Saint-Esprit est en train de nous parler, même si je pense que c'est moi qui est en train de me parler, le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est vrai que c'est en avant, ou tu es en train de lire un passage de la Bible, le Saint-Esprit dit que c'est vrai ce passage-là. Il te parle. Puis là, tu dis non, moi, je suis pas de même. Oh, moi, j'ai pas le temps. Moi, je veux pas changer ça. Moi, je veux pas abandonner ça. Moi, là, on le bloque. On bloque son action. La première chose qu'il faut accepter, c'est accepter notre état. Il faut dire, oui, c'est vrai, Seigneur, que je suis comme ça. Si tu n'as pas l'intention de l'avouer, tu veux rester dans les ténèbres. Si tu veux changer, commence par avouer ce que tu es. Quand que le Saint-Esprit te montre une vérité, oui, c'est vrai. Une des caractéristiques d'un serviteur de Dieu, c'est qu'il doit être enseignable. Si on pense qu'on a tout appris et qu'on n'a plus besoin de changer rien, on est déjà encore dans l'orgueil de la vie qui est en cours de notre chair. Parce que quand tu viens à Jésus, tu réalises, je suis rien, puis je suis rien de bon. Tout ce que je pense de la manière de vivre, c'est qu'est-ce que ma chair pense, puis c'est inutile devant Dieu. Je dois apprendre à marcher comme Dieu veut me l'enseigner, puis je dois dire, oui, c'est vrai, Saint-Esprit, ce que tu me dis là, je suis comme ça. Puis quand tu vas l'avouer, c'est la première étape. Jean 14, 26, le but du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est normal que vous entendez des choses qu'il vous dit dans votre oreille ou dans votre cœur. Ah, oh, je suis pas correct ce côté-là, ou je devrais pas faire cette chose-là, ou je devrais peut-être faire ça. Si vous entendez des élans comme ça, puis que ça vous pousse à être plus proche de Dieu, ça vous pousse à être plus saint, ou ça vous pousse à vous éloigner de certaines choses, obéissez. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Il dit, Jésus parle à ses disciples, puis il dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, il vous enseignera. C'est sûr que si vous avez donné votre vie au Seigneur, il est déjà en train de vous enseigner. Il s'agit juste à apprendre à écouter sa voix. Faut pas s'en aller comme les yeux, rien que dans les choses extérieures, puis courir, puis courir, puis courir. Comme... Non, faut s'arrêter, dire, wow, qu'est-ce que tu me dis, Seigneur, là? Il est en train de me dire quelque chose pendant que je lis la Bible ou pendant qu'on entend un message. C'est sa job. Puis si vous avouez votre état, puis vous l'acceptez, le changement va devenir possible. La deuxième condition pour être changé, il faut que tu avoues ton état, puis ta confesse à Dieu. Si tu finis par l'admettre, oui, c'est vrai, je suis comme ça, mais tu n'as pas le goût de le dire à Dieu que tu es comme ça, tu ne changeras pas dans ta vie. Tu vas rester exactement comme tu étais. Dans Psaume 32, de 3 à 5, ça dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, j'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mes péchés. À partir du moment que le Saint-Esprit te le montre, puis que là tu le confesses à Dieu, tu dis, oui, c'est vrai, je suis comme ça, Seigneur. C'est vrai que j'ai ce péché-là dans ma vie, puis tu le confesses à Dieu. C'est à partir de ce moment-là que Dieu, il t'enlève la peine de ton péché. Toutes les conséquences qu'il y avait dues à ce péché-là, il les enlève. Si tu étais lié à cause de ce péché-là, puis ça t'entraînait de répéter ce péché-là continuellement, puis ça avait des conséquences des fois dans ta vie, des jugements de Dieu peut-être, ou des attaques de l'ennemi parce que tu donnais accès au diable. Oui, Dieu, au moment qu'il voit que tu écoutes la voix de son esprit et que tu confesses ton péché, il t'enlève la peine de ton péché. Il te libère de ce qui te tient captif, puis toutes les conséquences qu'il y avait autour à cause de ce péché-là. Y'a-t-il un amen à cela? Dans 1 Jean 1, ça nous parle dans la même pensée. Il dit, si nous marchons dans la lumière, ça c'est exactement le contraire. Si nous marchons dans les ténèbres, c'est quoi les ténèbres qu'on a vu tantôt? On marche en noirceur, on ne veut pas être à jour. On veut rester où ce qui fait noir, pas que personne ne voie rien. Puis marcher dans la lumière, c'est le contraire. Dieu nous éclaire par sa lumière, par sa parole qui est la lumière aussi, par son esprit. Il nous éclaire. Si on marche dans la lumière comme il est lui-même, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le contraire, c'est continuer à marcher dans les ténèbres et le sang de Jésus ne nous pardonne pas nos péchés. C'est pas moi qui l'invente, il faut conclure ça. Puis on a encore des conséquences de notre péché. Dieu, des fois, est au de ses ravis. On l'a entendu, puis il y a une couple de prêches, clairement, il a dit, des fois, c'est des jugements du Seigneur, parce que le Seigneur est au de ses ravis, on n'obéit pas. Dieu est au de ses ravis. Puis des fois, l'ennemi nous attaque, puis on a des tentations, puis on est pogné avec certaines affaires, puis des conséquences du diable, c'est parce qu'on lui a donné accès à cause de nos péchés. Puis à partir du moment qu'on vient à la lumière, qu'on confesse notre état. Il nous libère des conséquences de notre péché et en plus de ça, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Alléluia! Je vous parlais des outils qui nous donnent des délivrances, des moyens miracles. Oui, il y en a, ça c'est ça. C'est les mêmes moyens que les premiers disciples faisaient pour sortir de leur vie de péché. Ça nous dit... Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, puis la vérité n'est pas en nous. Si on dit, oh, moi, j'ai rien fait de mal, je suis un chrétien exemplaire, mais on est dans le péché. On est déjà dans l'orgueil. Mais si nous confessons nos péchés, au verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Gloire à Dieu. Le troisième élément pour en savoir une délivrance du Seigneur, il y en a trois, en fin de compte. Fallait que tu te laisses parler par le Seigneur. Le Saint-Esprit, il veut t'enseigner. Puis il faut que tu l'admettes. Il faut que tu le confesses à Dieu. Le troisième élément, Romains 8, il nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Dans ce verset-là, ça me dit qu'il y a une possibilité pour certaines personnes, des croyants, qui ont reçu le Saint-Esprit, il y a une possibilité qu'ils puissent faire mourir les actions de leur corps par le Saint-Esprit. Là, ça dit, si tu fais mourir les actions de ton corps par le Saint-Esprit, tu vivras. Tu vas en avoir des guérisons, des délivrances, parce que le Saint-Esprit, il va te transformer, puis il va te changer. C'est lui qui a la puissance pour nous changer, nous régénérer, nous transformer, nous modeler, nous... Il ne fait pas juste nous le dire quoi faire. Il attend juste le moment qu'on le confesse à Dieu, le sang de Jésus, il nous pardonne et nous purifie. Puis là, on dit, Saint-Esprit, prends ma vie, fais mourir cette action-là. Le Saint-Esprit te remplit, puis il fait mourir cette action-là. Puis à chaque moment de ta journée, le lendemain, puis sur le lendemain, tu dis au Saint-Esprit, en confessant toujours ton état, que le Saint-Esprit vienne faire mourir cela, puis le Saint-Esprit va le faire. Si vous pensez que c'est de vous-même que vous allez faire mauvaises actions, vous ne serez pas capable, vous allez rester tel que vous êtes. Si vous reconnaissez que c'est l'Esprit de Dieu qui va faire changer les choses de votre vie, alors le Saint-Esprit va le faire, puis toute la gloire lui revient dans votre sanctification. Demandez au Seigneur de faire mourir les actions de votre corps. Vous allez me dire, oui, mais ça fait 8 ans ou 14 ans que je suis chrétien, j'ai encore des élans de péché de ma nature. Oui, ça se peut. Confesse-les à Dieu. Demande pardon au Saint-Esprit. Puis demande au Saint-Esprit de faire mourir ces actions-là. Puis tu vas avoir la délivrance. Je ne peux pas vous garantir en combien de temps. Parce que Dieu peut permettre que tu aies un combat. Mais c'est sûr que si tu t'accroches dans cette voie-là que tu vas l'avoir. Parce que Dieu n'est pas menteur. Puis la parole est vraie. Puis il dit, c'est dans la vérité qu'elle nous affranchira. Ça vient de la parole et du Saint-Esprit et du sang de Jésus. En fin de compte, la puissance du chrétien pour se sortir du monde et de ses propres péchés provient de la parole de Dieu, du sang de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit. Bon, j'achève. Regardons ce que la Bible nous dit sur l'action de l'Esprit dans notre vie. Je vais vous le lire bien vite. Paul est en train de parler à Galates au chapitre 5, le verset 16 et 18. Paul il dit, « Je vous dis donc ceci, laissez, ça je vous la lis dans la Bible du Sommeur, là encore un beau petit sens, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car les désirs sont diamantes. Ouais, ça veut dire qu'ils sont complètement opposés. Et ceux de l'esprit, c'est d'un bord, puis les désirs de ta chair, c'est complètement sur l'autre bord. L'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Si vous pensez que vous êtes encore maître de votre vie, vous êtes encore dans la voie de votre chair. Vous êtes encore dans la vie sans puissance pour être sanctifié. Si vous avez remis votre vie au Saint-Esprit à partir de votre conversion, puis dans votre vie chrétienne, même si ça fait 20 ans après, il faut que tu sois encore en train de livrer ta vie au Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit fasse mourir encore les actions de ton corps et qu'il te garde aussi dans ce chemin-là. Tu vas avoir une vie changée, transformée. C'est officiel. La première phrase, elle dit « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous garder. C'est la puissance de Dieu qui va vous garder. Puis c'est dans ce sens-là qu'on peut interpréter une promesse de la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Jésus. » Ça dit que ton esprit, ton âme et ton corps vont être conservés irrépréhensibles en autant que tu marches dans cet esprit-là qui veut t'amener à être incompréhensible. Dans une marche incompréhensible, irrépréhensible. Si notre désir est encore dans les œuvres de la chair, puis on a dit à l'esprit, je marche encore dans ce que j'aime, puis on se laisse aller là-dedans, c'est sûr que la puissance de l'esprit n'agit pas pour te délivrer. Puis en plus de ça, Dieu ne peut pas te garder dans cette sainteté, parce que tu n'es plus dans sa main. Pour que tu sois dans sa main, il faut que tu laisses l'esprit prendre le contrôle de ta vie. Puis là, il va faire mourir les actions de ton corps. Puis là, il va pouvoir te garder. Puis la même promesse, c'est une autre promesse dans l'Apocalypse qui parle encore dans le même sens. Apocalypse 3:10, c'est le dernier verset. « Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Frères et sœurs, ce que je vous dis là, c'est une vérité biblique et prophétique. Il y a un temps d'épreuve qui s'en vient sur toute la terre, puis il y a juste les vrais qui vont passer à travers. Il y a une puissance d'égarement qui va saisir ceux qui ne croient pas en la parole et qui ne marchent pas dedans, qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Puis Jésus nous dit dans ce verset-là, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. » Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui ne veut pas marcher dans la parole puis persévérer dans la parole? Il marche encore dans sa chair, puis Jésus ne peut pas le garder, il n'est pas dans sa main. C'est une personne qui est livrée à l'essence de sa chair, puis elle s'éloigne. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas revenir. Il y a deux chemins. Puis il faut marcher dans celle que le Saint-Esprit nous emmène, puis rester enveloppé de l'Esprit, puis demander à l'Esprit de nous transformer. Si on les confesse, le sang de Jésus sur nous, puis il va nous conduire en nous purifiant, puis en nous libérant de tous nos péchés. Puis à ce moment-là, on va vivre une vie qui n'est plus du tout comme le monde. Parce que c'est ça le chemin de Jésus.